Takarabon yung ito patutira, takarabon. Ako si Rizal Pugnati, ako si Sam. Pero siya kapela po ako sa Rizal. وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله، أنت رب الطيبين وأنت رب المؤمنين الصادقين، جعلنا الله وإياكم منهم. يا إخوة شفاء شفاء جاي كتاب خاصين عليه ممكن يتوصوا خاصين شوية شوية هكذا أي معلش. أيها الإخوة الكرام، أولا دائما نحن كمسلمين دائما نحمد الله ونشكره على جميع النعم التي أنعمها الله تعالى علينا. Mes chers frères, en tant que musulmans, on doit être toujours reconnaissant. On remercie Allah Ta'ala sur tous les bienfaits qu'Allah Ta'ala nous a donnés, qui nous donne, qui nous donnera. Allah subhanahu wa ta'ala, ya akhi fillah, il t'a pas donné une ni'ma, il t'en a pas donné deux. Allah ta'ala, il parle avec toi dans le Coran, il dialogue avec toi. Allah yuhawiluka fil Coran, wa yaqulu lak, ya abdi, ayyu ni'matin indak hiya min indi. Allah ta'ala te dit, n'importe quel bienfait que tu as, il provient de moi. Allah yaqul, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. N'importe quel bienfait, je vois, c'est un bienfait. J'entends, c'est un bienfait. Les cheveux, c'est un bienfait. Mes mains, c'est un bienfait. L'intelligence, c'est un bienfait. L'argent, c'est un bienfait. La voiture, la maison, la femme, les enfants, nanana. Tout ce que tu as, tous les besoins qui t'entourent, ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala, il continue, il dialogue avec toi. Allah ta'ala, il dit à toi, il dit à toi, combien de bienfaits tu as, tu crois? Combien de bienfaits compte? Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous voulez parvenir à vouloir compter les bienfaits d'Allah, vous ne parviendrez pas. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala t'en a donné des bienfaits. Depuis que tu es dans le ventre de ta mère jusqu'à maintenant, jusqu'à que tu mourras, combien de bienfaits t'as fait? Rien que le déjeuner, rien qu'à manger, on ne parle pas des autres trucs, rien qu'à manger, combien de déjeuners t'as pris depuis que tu es dans le ventre de ta mère? Combien de manger à midi t'as mangé? Combien de manger de soir t'as mangé? Tout ça, rien que le manger, on parle juste de manger combien? C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dans le Coran te dit, si tu veux venir parvenir à vouloir, si tu veux vouloir parvenir à compter les bienfaits d'Allah, tu ne parviendras pas. Donc si je ne parviens pas à compter les bienfaits d'Allah, je dois faire quoi? Allah Ta'ala te dit juste, remercie-moi. C'est pour ça qu'il est venu dans le hadith al-sahih, afdalu du'a, le meilleur des du'a, quand tu dis alhamdulillah, alhamdadou, quand tu remercies Allah. Quand tu dis alhamdulillah, lillah, tu as vu le mot lillah, tu viens d'invoquer le nom d'Allah. Tu as dit alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Et Allah, il te dit, mon serviteur, non seulement tu m'as remercié, donc je suis content, mais en plus tu viens de citer mon prénom là. Tu as dit Allah. Tu viens de citer mon prénom. Oui, Allah, j'ai cité ton prénom. Allah Ta'ala te dit dans un autre hadith, si tu m'invoques dans un groupe, je t'évoque dans un groupe mieux que le tien. Et si tu m'évoques en toi-même, je t'évoque en moi-même. Tu m'invoques, je t'évoque. Tu m'invoques en groupe, je t'évoque dans un groupe mieux que le tien. Là, regardez-nous dans la mosquée des Bleus et aujourd'hui, on est en train de dire Allah, 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 Allah. Allah Ta'ala au-dessus du septième ciel, devant Jibril, Mikaïl, Israfil, les porteurs du trône, les anges qui tournent autour du trône, tous les anges qui sont dans le ciel, le premier ciel, le deuxième ciel, voilà. Tous les anges, Allah Ta'ala parle de nous. Nous on parle d'Allah ici, en bas, et Allah Ta'ala parle de nous en haut. Et si tu parles d'Allah tout seul, chez toi, tout seul, Allah Ta'ala, il t'évoque en lui-même. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala te dit dans le Coran, « Fadhkuruni adhkurkum » Allah Ta'ala te dit, invoque-moi, je t'évoque. Remercie-moi, washkururi, voilà, et ne reniez pas les bienfaits que je vous ai donnés. Donc, ayyuhul ikhwatul kiram, toi en tant que musulman, da'iman, dans n'importe quelle situation, da'iman, vous alhamdulillah. Je mange, alhamdulillah, je suis habillé, alhamdulillah, je monte dans la voiture, alhamdulillah, je vais aller au travail, alhamdulillah, je rentre à la maison, alhamdulillah, je vois ma femme, alhamdulillah, je vois mes enfants, alhamdulillah, je vois mes collègues, alhamdulillah, je vois mes voisins, alhamdulillah. Tous les jours, attention, le mot alhamdulillah, il quitte ta bouche. Attention, le mot alhamdulillah, il quitte ta langue. Attention. Da'iman, toi musulman, tu nies avec alhamdulillah et tu meurs avec alhamdulillah. Et tu rencontreras Allah Ta'ala avec alhamdulillah et tu rentreras au paradis avec alhamdulillah, avec les gens de alhamdulillah. C'est très très important. Pourquoi alhamdulillah, ça ne te coûte rien. Hayyoubina ayyuhul ikhwatul kiram, on rentre dans le rappel. Mais ce rappel-là, je le fais pour moi, mais pour vous. Si je vous dis ça, c'est qu'à la fin, je vais vous questionner. Tu veux te distraire, tu veux t'arrêter, tu veux dormir, donc, mais à la fin, je te questionne. Alors, sois concentré. Combien de monde Allah il a créé? Kam alim, kam awalim Allah khalaq. Combien de monde Allah il a créé? Combien? Je me mets debout comme ça je vois tout. Il y en a qui vont chercher de dormir derrière. Allah il a créé 6 mondes. Allah khalaqa sittatu awalim. Allah il a créé 6 mondes. Premier monde, Allah il a créé le monde des anges. Alimul malaika. Le monde des anges qui sont créés de lumière. Ensuite, Allah il a créé le monde des animaux. Alimul hayawan. Le monde des animaux. Ensuite, troisième monde, Allah il a créé le monde. Deuxième, le monde des animaux. Troisième, Allah Ta'ala a créé le monde des djinns. Le monde alimul djinn, qui sont créés de feu. Hein, qu'ils appellent les mauvais esprits, ou je ne sais pas comment ils appellent, les djinns. Vous voyez, quand Allah il a créé le feu. Trois mondes. Le quatrième, alimul jamadat, le monde du solide, tout ce qui est solide. Tu as les montagnes, tu as les météores, tu as les planètes, il y en a beaucoup de planètes, tu as les étoiles, tout ce qui est solide, tout ce qui est comme du béton. Hein, on appelle alimul jamadat, jamad, il est dur. Le monde du solide, ça c'est le quatrième monde. Le cinquième monde, alimun nabatat. Le cinquième monde, c'est le monde des végétales. Tout ce qui pousse de la terre. Ça comporte les légumes, les fruits, les arbres, tout ce qui sort de la terre. C'est un monde ça. C'est qui s'occupe de la fleur? C'est qui s'occupe de la sortir de sa tige? C'est qui? C'est à moi. Alimun nabatat. Nous sommes à combien? Au septième. Cinquième. Ah bon, on est au cinquième. Alhamdulillah. On ne s'adore pas. Alhamdulillah. Donc, on a dit les anges, les animaux, les djinns, le solide, le jamadat, et le cinquième, nabatat, végétal. Le sixième, alimou les êtres humains, alimou l'ins, le monde des êtres humains. Et ce monde-là, des êtres humains, alimul ins, Allah Ta'ala, il a insisté sur ce monde-là. Allah rakkaza ala hada al-alim bidhat. Ce monde-là. Allah, il a envoyé ses prophètes-là parmi vous. Et Allah, il a fait descendre les livres pour vous. Et Allah, il a créé les anges et les animaux et les planètes et le soleil et la lune pour vous. Donc vous, vous êtes très très important pour le dernier monde là. Vous êtes très 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 importante. Vous, le monde des humains, le monde des êtres humains. Vous êtes très 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 important. Et vous, le monde des êtres humains, Allah Ta'ala a fait descendre un livre, je crois que vous l'appelez le Coran, c'est ça? Le Coran. Votre livre à vous s'appelle le Coran, je me trompe, c'est ça le Coran. Votre livre à vous, le Coran, Allah, il a mentionné dans ce livre, le Coran, il parle beaucoup de vous. Ce Coran-là, Allah, il a fait descendre. Ce Coran-là, il te dit d'où tu viens, qu'est-ce que je veux de toi, et comment parvenir à réaliser ce que je veux de toi. Qui es-tu? D'où tu viens? Qu'est-ce qu'Allah, il veut de toi? Et il veut quoi de moi? Il veut quoi toi Allah? Allah il t'a dit dans le Coran, ne meurs qu'en étant musulman. Est-ce qu'Allah t'a dit de toi? Voilà, t'as mouton, mais il a un ton. C'est bon, je veux de toi que tu meurs musulman. Oui, Et le Coran, il est venu te dire comment parvenir à mourir musulman. Comment parvenir à avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Donc le Coran, il est venu vous détailler le comment. D'accord ? Et justement, parmi ce qu'il nous a mentionné dans le Coran, ce qu'Allah ta'ala nous a dit dans le Coran, Allah nous réveille. C'est quoi qui nous réveille ? Moi, je te fais rentrer dans la maison des coffres, j'ai une banque. Moi j'ai une banque, Jamel. J'ai une banque. Il y a des bijoux, il y a des émeraudes, il y a des diamants, il y a des lingots d'or, il y a des billets de 500 euros, deux palettes. Allez, si vous voulez. Que des billets. Et moi je te dis, écoute, je vais te faire rentrer dans cette chambre, dans ce coffre-là, tu as 5 minutes. Ramasse ce que tu veux. Tu as 5 minutes. Ramasse ce que tu veux, comme bijoux, comme émeraude, comme diamant, comme or, comme... Prends, tu as 5 minutes. Mais, attention, sur le mur, il y a des posters. Sur le mur de ce coffre-là, il y a des posters. Il y a le poster d'un dinosaure. De l'autre côté, il y a un poster du château de Louis IV. Dans l'autre mur-là, il y a l'image des images. Alors, enfous-toi des images, toi, tu as 5 minutes, c'est peu. Ramasse, tu t'en fous de l'image du dinosaure, le match de Louis IV, le match du château, l'image du joueur de foot, l'image de cet homme qui a été les hommes préhistoriques, Néandertal. Enfous-toi de ces images, toi, ramasse. Toi, tu me dis, d'accord, non, t'es, Allah, je vais ramasser, bon, fous-moi de ces posters. Avec l'argent que je vais ramasser, j'en achète 4000 des posters, oui ou non? Et voilà que toi, tu rentres dans le coffre. Tu vois tout devant toi, les lingots d'or, les diamants, les bijoux, etc. Et dès que tu rentres toi, tu te trouves nez à nez avec Napoléon. Oh, c'est lui Napoléon ? T'es la figure qu'il a. Oh, t'es, ah, moi, je croyais un peu plus grand. C'est la figure, il a un gros nez quand même. Et juste à côté, un dinosaure. Ah, c'est ça le dinosaure, ils ont dit qu'il était imbattable. Dire que ce dinosaure, il faisait 8 mètres. Ouais, mais elle est du 8 mètres à l'époque de Adam. Adam, il faisait 30 mètres, il faisait 8 mètres, c'est énorme. Aïe, 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 et juste après le château, tu vois, il est beau ce château. Comment il a fait pour construire ce château en plein milieu de la mer? Des vagues qui passent là. Quelqu'un il tape. Toi, tu ouvres la porte et tu dis 5 minutes sont écroulées. Sors. Mais attends, j'ai rien ramassé. Sors. Tu as été averti. On t'a dit, on te donne 5 minutes. Et enfous-toi du poster. Tu as 5 minutes, ramasse. D'accord? Toi, tes 5 minutes. Tu t'es distrait à regarder les posters, tu n'as rien pris. Le temps il est écoulé, sors. Et tu sors bredouille. Ni tu es sorti avec les posters, comme disait savant, ni tu es sorti avec les posters, et ni tu es sorti avec la richesse. Tu es sorti bredouille. C'est ce qu'Allah Ta'ala te dit dans le Coran. Il te dit, mon serviteur, fais attention. Je vais te mettre dans un endroit, je l'ai embelli. Je l'ai maquillé. Je l'ai colorié. Cet endroit-là, il s'appelle Dunya, ce bas monde. Mais ce bas monde-là, il n'est pas pour toi. Ne le regarde même pas. Ne prête pas attention à ce monde. Toi, ramasse. Je ramasse quoi, Yallah ? Ramasse les hasanettes. Ramasse. Laisse ce bas monde, il n'est pas pour toi. Même si tu entends qu'il a vécu le monde de Saba, le monde de Pharaon, le monde. Je t'en fous. Toi, ce n'est pas pour toi. Toi, tu as été créé pour le paradis. Toi, c'est le paradis qui t'attend. Toi, tu es de passage là. Peu importe l'arc-en-ciel, il est beau, il n'est pas beau, peu importe la pluie, c'est pas pour toi. Quand tu rentreras au paradis, Inch'Allah, tu en verras des arc-en-ciel. Là, tu t'en fous. Et nous, le problème, on est en train de faire la même chose que celui qui s'est laissé distraire par les posters. On est en train de s'occuper des belles voitures, on regarde les belles voitures, on regarde les beaux murs, on regarde les couleurs, on regarde l'argent, on regarde. Et au lieu de ramasser des hasanats, rien jusqu'à qu'il va venir l'ange de la mort, il va te dire, Nourdin, khalas, Allah il m'a envoyé à toi, il y a convocation d'urgence, tu es obligé de partir. Mais attends, j'ai rien fait, malak el maut, attends s'il te plaît. Attends. Il te dit, je ne peux pas attendre. Je ne peux reculer personne, comme Allah Ta'ala l'a prescrit. Allah Ta'ala te dit dans le Coran, anfiqou mimma razaqnakum. Donnez pour Allah, donnez de ce qu'on vous a donné. Avant que l'un de vous, quand il va venir la mort, wa anfiqou mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. Laisse-moi, ya Allah, recule-moi et je te promets d'être un serviteur pieux. Rabbi te dit dans le Coran, walan, impossible. Walan yu'akhir Allah nafsa. Allah te dit dans le Coran, je recule personne. Comme celui qui a tapé après 5 minutes, je te sors. Là, tu sors de ce bas monde-là. Tu sors. Tu n'as pas récolté des hasanat. Tant pis pour toi, tu sors de ce bas monde. Ni tu vas vivre au paradis avec le prophète et les compagnons. Ni tu vas pouvoir prendre quelque chose de toi de ce bas monde. Tu vas prendre quoi quand tu vas mourir de ce bas monde? Rien. Comme celui qui n'a même pas pris les posters. Toi, tu ne vas rien prendre. C'est pour ça que mon frère, quand tu vas rentrer au paradis, Inch'Allah, Allahumma ya Rabbi, adkhilhum al-janna ya Rabbi. Quand vous allez rentrer au paradis, le paradis qui vous attend, Allah Ta'ala, il a créé un paradis qui est au-dessus de toi. Allah, il a créé un paradis. Et quand on va t'ouvrir la porte, les anges y viennent t'accueillir. سلام عليكم يا عباد الله يا عباد الله سلام عليكم طبتم. Ô vous les serviteurs d'Allah, سلام عليكم, nous sommes les anges, Allah nous a envoyé à vous pour vous accueillir, vous ouvrez pas, rentrez pour l'éternité. فادخلوها خالدين. Alors nous on va rentrer main dans la main, comme il est venu dans le hadith, pas un derrière l'autre, non, main dans la main, comme il a dit le prophète, on va rentrer tous ensemble. Il n'y a pas toi tu vas rentrer avant moi, on va rentrer tous ensemble. Une fois qu'on va rentrer, la ilaha illallah, cette splendeur, ce paradis, cette richesse, ce paradis qu'Allah nous en avait parlé dans le Coran et qu'on en a attendu des années pour entrer, voilà j'y suis. Voilà, je suis dans ma propriété. Et soudainement, Allah il envoie un ange qui te dit, ô vous les serviteurs d'Allah, restez vivants, vous ne mourrez jamais. Restez jeunes, vous ne vieillirez jamais. Restez en bonne santé, vous ne tomberez jamais malade. Et vous aurez tout ce que vous voulez, vous ne serez jamais privé. Quatre. Ces quatre-là que nous tous, on cherche à avoir dans ce bas monde-là. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir dans ce bas monde-là? Tous, on veut rester vivant. Nous, non. Walakin Allah Ta'ala a fait que la mort, ni tu la donnes, ni tu l'évites, ni tu la vends, ni tu l'achètes, ni rien. Tout le monde passe par la mort. Tu veux pas mourir? Tu mourras. Les anges, ils mourront. Les animaux, ils mourront. Et toi, tu mourras. Malgré que toi, tu veux rester vivant. Même si tu restes autant d'années sur terre, tu mourras. Tu mourras. Au paradis, non. Ça, c'était un rêve. C'était un souhait que tu désirais dans ce bas monde-là, de ne pas mourir. Allah, il ne te donne pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton monde. Ce n'est pas un monde pour toi, ça. Donc, ce souhait-là que tu cherchais tant à réaliser, Allah, il ne te le donne pas. Quand tu vas rentrer au paradis, c'est le monde réel qui t'attendait, c'est ta demeure réelle. Là, tu vas vivre auprès d'Allah. Là, tu vas rester éternel, tu ne mourras jamais. Donc, le premier souhait que je cherche à avoir dans ce bas monde, Rabbi a créé le paradis pour me le réaliser. Pas ce bas monde. Je cherche à rester vivant. Allah te dit non, j'ai créé le paradis pour te réaliser ce souhait-là. Mais ici, tu ne l'auras pas. Le deuxième souhait, c'est quoi? C'est de rester jeune. Vous avez vu les gens, combien de millions et des millions ils gaspillent en faisant les opérations esthétiques? Alors, ils veulent enlever les rides, ils veulent faire pousser les cheveux, ils veulent leur courbature de dos, ils veulent... Fais ce que tu veux, mais tu vieilliras. Les animaux vieillissent, la terre vieillit, toi tu vieillis, les djinns vieillissent, tout le monde vieillit. Allah, il a prescrit que tout le monde vieillira. Fais 50 000 opérations esthétiques, tu vieillis, tu vieillis. Au paradis, non. Ça, c'est un souhait que tu cherchais à avoir dans ce moment, de ne pas vieillir. Et tu vis, pas du tout au paradis, non. Tu resteras à l'âge de 33 ans et les femmes 21 ans. Il n'y a pas un jour au paradis, tu vas monter à 34. Non, comme il est venu le hadith sahih, 33 ans, l'âge de Isa alayhi salatu wassalam, l'âge de Jésus. Allah, il a créé le paradis pour que tu restes jeune. Ici, non. Ça, c'est le deuxième souhait que tu cherches à avoir. Rabbi, il a créé le paradis pour le réaliser. Et le troisième souhait, c'est quoi? C'est que moi je voudrais bien rester toujours en bonne santé, ne tomber jamais malade. Non. Rabbi l'a prescrit à tout le monde de tomber malade ici. Même le plus grand milliardaire sur terre, il tombe malade, ne serait-ce qu'un rhume, une grippe, une angine, un peu importe, tu tombes malade. Ça c'est la faiblesse d'être humain que tu as, tu tombes malade. D'accord? Tu ne peux pas échapper à la maladie. Ou alors qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de maladie. On l'appelle la maison de paix. Trulouha, Dar Salam, le paradis Allah, il appelle la maison de la paix. Ça veut dire quoi, paix? Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de triste, il n'y a pas de... Rien. Il la maison de la paix, je suis en paix. Je ne tomberai jamais malade au paradis. Mange, bois, dors, voyage, cours, marche au paradis, tu ne tomberas jamais malade. Ça, c'est un souhait que tu voulais réaliser ici, dans ce bas monde. Lakin Allah, il ne t'a pas donné ce souhait-là, tu réaliseras au paradis. Tu ne tomberas jamais malade. Et le quatrième souhait, c'est quoi? C'est que franchement, je voudrais bien avoir tout ce que je veux. Mais non, tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Il y a des choses que tu voudrais avoir, mais tu es privé. Il y a des choses que je voudrais avoir. Moi, mon père, il est décédé à l'arrière. Moi, je voudrais bien que mon père soit là. Ah ben non. Ton père, il est décédé, il ne peut plus revenir. Ta mère, elle est décédée, elle ne peut plus revenir. Je sais pas moi. Là, on est quoi en hiver? Moi, je voudrais bien manger des melons. Hein, des melons, c'est l'été. Il faudra que tu attendes l'été. Des fruits d'été, il faut attendre l'été. Des fruits d'hiver, il faut attendre l'hiver. Au paradis, là. Au paradis, il n'y a pas de saison. Au paradis, Allah Ta'ala te dit, tu auras ce que tu veux. Ce que tu veux. Juste les fruits. Juste les fruits. Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran, « Wa fakihatun kathiratun la maqtou'a wa la mamnou'a » Et ils auront des fruits en abondance, sans qu'ils soient privés d'aucun fruit, sans qu'il y aura coupure de fruits. Il n'y a pas au paradis, je veux des bananes, non, il faut que j'attende l'été, je veux avoir des fraises, non, il faut que j'attende l'hiver, je veux avoir des melons, non. Au paradis, il n'y a pas. Et au paradis, on ne te le donne pas, le paradis. Allah, il te dit dans le Coran, le paradis, dans le paradis, je ne te donne pas les fruits. C'est le fruit qui vient à toi. Le paradis, vient, il se penche devant toi. Le fruit, vient, il se penche devant toi. C'est pas toi qui vas le chercher. Tu as envie de manger, l'oiseau, il vient, il se penche devant toi. Le récipient d'eau, il vient, il se pose devant toi. Même aller le chercher, il n'y a pas au paradis. C'est tout se pose à ton service. Donc ici, dans ce bas monde, tu voudrais réaliser ces souhaits-là, d'avoir ci, d'avoir ça. Lakin Allah Ta'ala te dit non. Dans ce bas monde-là, je te prive. Je te prive de ta jeunesse, je te prive de l'argent, je te prive de tes enfants, je te prive de ton épouse, je te prive de tes parents, je te prive, je te prive, je te prive, je te prive. Lakin au paradis, il n'y a aucune privation. Aucune. Aucune. Allah Ta'ala dit « Fiha ma tashtahi l'anfus » Allah Ta'ala dans le Coran dit « Vous aurez exactement tout ce que vous désirez. » Il n'y a pas au paradis, non, on n'a pas. Le non, là, au paradis, il n'existe pas, le non. Non, il n'y en a pas, voilà, il faut attendre, on attend, on fait la commande, voilà, il n'y a pas. Vous aurez exactement ce que vous voulez. Mais attention, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a un hadith qui fait sahih muslim, qui est sahih. Allah Ta'ala, il nous dit dans un hadith, j'ai réservé pour mes serviteurs pieux. Attention ce hadith, écoutez, hein, parce que je vais vous poser une question, apparemment il est contradictoire. Oh. Allah Ta'ala te dit dans le hadith, a'adabtu li'ibadi as-salihin. J'ai préparé pour mes serviteurs pieux, aucune oreille a entendu ce qu'il y a dans le paradis. Aucun œil a vu ce qu'il y a dans le paradis. Et aucune imagination peut te passer dans le cœur que le paradis est comme ça ou comme ça. Quoi? Rabbi a créé un endroit, il s'appelle le paradis, il n'y a aucune oreille qui a entendu? Non. Il n'y a aucune oreille qui a vu? Non. Il n'y a aucune quelqu'un qui connaît la description du paradis? Non. Et mon frère, ce hadith, il me fait plaisir, mais moi j'ai lu dans l'autre hadith que le prophète, il est dans le voyage nocturne, le mi'raj, non. Le prophète, il est rentré au paradis. Il a vu, c'est même lui qui nous l'a décrit, le prophète du paradis, il a dit la terre du paradis elle est comme ça, et les épouses du paradis sont comme ça, et les arbres du paradis sont comme ça, et les paliers du paradis sont comme ça. Le prophète il est rentré, il n'est pas rentré seul, il est rentré avec l'ange Gabriel. Et Ibrahim, notre père Ibrahim, il a vu le paradis. Alors comment ici dans ce hadith là, Allah il dit, aucun œil a vu. Et moi j'ai d'autres hadiths qui sont sur le Bukhari. Il y a des yeux qui sont vus. Le prophète Mohammed, il a vu. Ibrahim, il a vu. L'ange Gabriel, il a vu. Comment on fait? C'est contradictoire, là. Les ulama, ils ont répondu à ça. Le prophète, oui, certes, il est rentré au paradis. Comme là, je rentre, moi, dans le quartier de le vôtre, le bleuet. Et le prophète, il est rentré au paradis, nous a décrit l'extérieur du paradis. C'est comme moi, je rentre au bleuet, je vous dis, les bâtiments des bleuets sont blancs, il y a 6 étages, il y a un ascenseur, il y a 4 parkings, et nanana. Je vous décris le quartier des bleuets. Mais est-ce que je suis rentré chez toi, moi? Moi, je sais combien de couvertures tu as. Est-ce que je sais, moi, combien de coussins tu as? Est-ce que je sais combien de verres tu as? Est-ce que je sais combien de tables et de chaises tu as? Je sais rien, moi. Ça, c'est ta maison. Moi, je décris que le quartier. quand il est rentré au paradis, il nous a décrit l'extérieur du paradis. Il nous a décrit les arbres, le parterre, la terre, l'endroit. Il nous a décrit les épouses qui sont devant les fleuves. Il nous a décrit le palais. Il nous a décrit les rubis. Il nous a décrit les perles. Il nous a décrit les émeraudes. Il nous a décrit les animaux. Mais le prophète, il n'est pas rentré chez moi. Toi, donc chez toi, toi au paradis. Là, Allah Ta'ala te dit dans le hadith, aucun œil a vu. T'as vu ta maison à toi, le palais, comment il t'a réservé au paradis, il est fermé là. C'est toi le premier qui rentrera et que tu découvriras ta maison. Elle est blanche ou elle est jaune? Elle est peinte en vert ou elle est peinte en rouge? J'ai combien de services? J'ai combien de diamants? J'ai combien d'épouses? J'ai combien de chambres dans mon palais? J'ai combien de couvertures? J'ai combien de tapis? J'ai combien de coussins? Ça, c'est toi qui le découvriras. Et ça, c'est toi qui entendras dans ta maison la voix de tes épouses qui t'attendent dans le palais. Tes épouses et tes serveurs. Tu auras des serveurs, tu auras des épouses. Ceux-là, ils parleront pour la première fois avec toi. Il n'y a que toi qui vas les entendre. Il n'y a que toi qui vas les voir. Il n'y a que toi qui pourras décrire comment ils sont mes meubles, et comment ils sont mes lits, et comment ils sont mes serveurs, et comment ils sont mes épouses. Autrement, nous, on ne sait pas. Moi, je ne saurais pas qu'est-ce que tu as chez toi, et toi, tu ne sauras pas qu'est-ce que j'ai chez moi. Ça, c'est un cadeau de la part d'Allah. Vous avez compris? Ça, c'est de la part d'Allah. Donc, le hadith que le prophète nous a décrit le paradis, le prophète nous a décrit l'extérieur. Mais l'intérieur, ça, c'est réservé pour toi, c'est une surprise pour toi, et ça sera une découverte pour toi quand tu rentreras au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit rentre chez toi. Donc, ayyuhul ikhwatul kiram, pour réaliser ce rêve qui nous attend, ces souhaits-là qui nous attendent pour entrer au paradis, on doit retourner avec Allah, avec la clé du paradis. Et la clé du paradis, ayyuhul ikhwatul kiram, c'est sortir de ce bas monde-là en ayant le diplôme qu'Allah, malgré qu'Allah est satisfait de moi. Radiallahu anhum wa radhu anhum. Allah, il a été satisfait d'eux. Et pour qu'Allah il soit satisfait de toi, il faut que tu adores Allah dans ce bas monde-là. Allah t'a envoyé pour une mission dans ce bas monde-là. C'est quoi? C'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et adorer Allah, c'est pas évident quand vous êtes célibataire. C'est pas évident. Surtout que vous vivez dans les derniers signes de la fin du monde, vous êtes rempli d'ennemis, vous êtes rempli de tentations. C'est pas simple, c'est pas évident d'adorer Allah Ta'ala avec constance. Malheureusement, Allah Ta'ala n'a pas dit adore-moi. Si Allah il m'aurait dit adore-moi tout court, tout le monde va rentrer au paradis, tous. Walakin Allah Ta'ala, il a mis, après l'adoration, il t'a mis un adjectif. Allah il t'a pas dit adore-moi. Allah Ta'ala il t'a dit dans le Coran, adore-moi avec sincérité. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisin. Sincérité. Adorer tout court, non. Allah il vous demande dans le Coran, adore-moi avec sincérité. Et malheureusement, pour que j'adore Allah avec sincérité, tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Célibataire, tout seul, je ne peux pas. Allah, il a fait que cette religion, c'est un fardeau, c'est lourd. Je ne peux pas la prendre tout seul. Allah, il a fait qu'il faut qu'on soit collectif, tous ensemble. Hein, vous avez vu, Allah, il t'a donné une main, mais au bout de cette main, il y a cinq doigts. Cinq doigts. Ces cinq doigts-là, c'est eux, grâce à ces doigts-là, qui portent, qui aident le bras à porter, à poser, à prendre, etc. C'est pareil, la religion, je ne peux pas, moi, tout seul. Allah il a dit dans le Coran au prophète, Inna sanurqi alayka qawlan thaqila. Je vais descendre sur toi. Ya Muhammad, des paroles lourdes. C'est un fardeau la religion. C'est pas moi. La religion elle est simple, elle est facile si on se met tous ensemble. Mais si moi tout seul, je peux pas. Donc on a besoin l'un de l'autre. Et c'est ce qu'il dit le prophète. Le prophète il dit, vous les musulmans, chaque musulman vers le musulman, c'est comme un mur de parpaing. Chaque parpaing il tient l'autre. Chaque parpaing il tient l'autre. Et le ciment, c'est le mahabba. Il n'y a pas de mahabba, on ne travaillera jamais ensemble. Il n'y a pas d'amour entre nous, fraternité, on ne travaillera jamais ensemble. Donc si tu veux adorer Allah avec sincérité, tu as besoin de tes frères et sœurs. Et pour avoir besoin de tes frères et sœurs, mon frère, il faut te marier, il ne faut pas rester tout seul. Rester célibataire dans l'islam, c'est quelque chose qui est quasi interdit. J'ai bien dit interdit. C'est pas oui, c'est non, c'est interdit de rester célibataire. Pour ceux qui ont les moyens, et surtout vous les jeunes. Pourquoi l'islam il s'est appuyé sur vous les jeunes? Parce que toi, jeune, tu as la mémoire fraîche, tu as l'intelligence, tu as la force. Eh Dieu, ça y est, il est fatigué, miskin, ça y est, il a fait son temps. Ça y est, toi jeune, non, tu es frais. Donc la religion elle a besoin de nous, les forts costauds. Mais nous, les jeunes, tellement on est fragile, tellement on est entouré de tentations, on a besoin de se marier. On a besoin de se marier. C'est pour ça que dans l'islam, Allah il insiste dans le Coran, il dit « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا » Ne vous dispersez pas. Réunissez-vous. Mais c'est quoi la chose qui peut nous réunir? Le Coran. Restez autour du Coran. Vous savez votre prophète, Muhammad alayhi salat wa salam, c'était la personne qui avait le plus crainte d'Allah. C'était la personne la plus savante. Malgré ça, Allah t'a dit à Muhammad, tu ne resteras pas célibataire. Oui, mais Allah, il y a Allah, Muhammad, il est pauvre, il est orphelin, ça va être dur pour lui se marier. Peut-être qu'on peut l'exclure. Rabbi dit, non, ya Muhammad, t'exclue pas. Ya Muhammad, même toi, sallallahu alayhi wa sallam, tu devras passer par le mariage. Mais pourquoi? Parce que tu dois suivre l'exemple des prophètes qui sont venus avant toi. Ils se sont mariés, tu te maries. Ils ont fait des enfants, tu en fais. Parce que si le prophète ne se serait pas marié, eh ben beaucoup d'entre nous aujourd'hui disent non, mais ce n'est pas sunna de se marier à Bougan. Donc, Mohammed Rasoul n'est pas marié. Ben moi, je ne me marie pas. Et pourtant, Allah dit dans le Coran, Ya Mohammed, wa laqad arsalna rusulan min qablik. Nous avons envoyé des messagers avant toi. Wa laqad arsalna rusulan min qablik. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya. Et on a fait qu'ils avaient des épouses et des descendants, des enfants. Donc, Ya Mohammed, toi aussi, tu devras passer par là, hein, et te marier et faire des enfants. Rester célibataire, l'islam il ne veut pas. Célibataire, tu es fragile, toi, tu es une proie de Shaitan. Rasoul Semin a dit, celui qui reste seul, c'est comme un mouton qui s'est écarté du troupeau. Le loup, il guette de loin et regarde. Le loup, il n'attaque jamais le troupeau, jamais. Le loup, il regarde de loin, il guette. Il regarde quel est le mouton qui est blessé, quel est le mouton qui est fatigué. Il regarde juste le mouton qui va sortir un peu du troupeau, hop. Le loup l'attaque. Tant que toi tu restes en groupe, Shaitan il a peur. S'approche pas. Shaitan il a peur. Walakin, dès que toi tu sors du groupe, et malheureusement en n'étant pas marié, tu es une proie de Shaitan. Shaitan il a beaucoup accès à toi. C'est pour ça que l'islam il interdit que tu restes célibataire. On a fait la prière. Faire la prière c'est quelque chose de formidable, oui ou non? Oh, je suis dans la maison d'Allah. Oh, oui, je sais. Oh, j'ai fait la prière. Oui, je sais, mais tu fais la prière comme Allah veut ou comme tu veux toi. Si l'un de nous, on a fait le maghreb, si un de nous il est rentré avec un beau camis, avec un beau parfum, avec la barbe qui fait 20 cm, mais il veut prier tout seul derrière. Il ne veut pas rentrer avec nous dans le rang. Il veut prier tout seul derrière. Pourtant, il est dans la mosquée. Hein. Il est dans la mosquée. Hein. Il est en train de faire la prière avec nous. Hein. Est-ce qu'Allah il est content de lui ou Allah il est mécontent de lui? Allah il est mécontent de lui. Pourquoi? Al-Rasul Sassim l'a dit, la salata, il n'a pas de prière. La salata li munfaridin khalfa saf. Il n'a pas de prière, celui qui prie individuel derrière les rangs. Pourquoi tu ne rentres pas avec nous, toi? Pourquoi tu ne rentres pas avec nous? Tu es avec nous, mon frère, pourquoi tu ne rentres pas avec nous? Qu'est-ce que tu fais tout seul? Bon, il n'y a pas de place, les rangs ils sont complets. Bon, je ne parle pas de celui-là qui ne trouve pas de place, bon, ça c'est une excuse. Mais moi je parle des fois qu'il y a des places à droite et à gauche, la personne est prise tout seul derrière. Tu crois que tu fais quelque chose de bien? Le prophète, il a dit, il n'a pas de prière celui qui prie tout seul derrière le rang. Et dans une autre version du hadith, alors celui dit, Mourou, fali'id al-salat. Dites-lui qui refait la prière. Pourtant, il a fait la prière. Mais le prophète, il dit, non, il a fait quelque chose de pas bien. Donc c'est pour ça qu'à l'époque du prophète, il s'adressait aux jeunes, il leur dit, ayyuh al-shabab, oh vous les gens, les jeunes, pour celui qui a la capacité de se marier, qu'il se marie. Le prophète, dans son époque, hein, 1445 ans arrière, qu'il se marie, qu'il reste pas célibataire. Bon, c'est vrai, maintenant j'ai compris, mon frère. J'ai compris qu'il faut se marier, c'est un ordre d'Allah, c'est un ordre du prophète, je dois me marier pour me préserver, etc. D'accord. Mais qu'est-ce que je gagne? Tu gagneras au paradis. Tu suis le prophète, tu seras avec le prophète. Tu suis le prophète, tu seras avec le prophète. Mais je veux me marier, je vais choisir qui comme femme, moi. Une Russe, une Américaine, une Algérienne, une Tunisienne, une Marocaine, une Comorienne. L'islam, il n'est pas rentré dans ça. L'islam, il te dit, prends une musulmane qui craint Allah. Tu veux la prendre avec les yeux bleus, ou elle n'a pas les yeux bleus, tu veux la prendre 1m80, ou elle a 1m60, tu veux la prendre de l'Algérienne, ou la Marocaine, ou la Tunisienne, ou la Comorienne, ou la... prends-la ce que tu veux. L'islam, il n'est pas rentré dans ça. L'islam, il te dit, prends la femme que tu désires, que tu souhaites. Prends-la juste, c'est une femme religieuse. Fasfar bidat al-din. Prends une fille qui a la religion, qui craint Allah. Pourquoi? Parce qu'une femme qui craint Allah, elle a ses limites. Un jour, elle va se disputer avec toi, elle ne va pas t'insulter. Pourquoi? Parce qu'elle craint Allah. Elle ne va pas te voler. Pourquoi? Parce qu'elle craint Allah. Elle ne va pas te frapper. Pourquoi? Parce qu'elle craint Allah. Une femme qui a une crainte d'Allah, elle tire toujours le frein à main. Elle sait qu'elle a ses limites. Et c'est pareil pour vous. Moi, j'ai une sœur. Il vient frère la demander, je la donne au premier maître parce qu'il travaille à la mairie, il a un bon poste, parce qu'il travaille pompier, ou parce qu'il a 5000 euros qu'il danse chaque mois, je lui donne ma soeur, ou ma fille, ou ma nièce. Non. Vous avez qui? Pareil. Tu donnes, tu maries à ta nièce, ou à ta fille, ou à ta soeur, tu lui maries quelqu'un qui craint Allah. C'est pas moi qui le dis. Le prophète s'en dit, « Ida ja'akum mimman tarzawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. » S'il vous vient quelqu'un que vous êtes satisfait, c'est toi là, toi le tuteur, le père, le frère, c'est toi qui sais. Si vous vient quelqu'un demander la main de votre soeur, ou à votre fille, ou à votre nièce, et que vous êtes satisfait de sa religion, de son comportement, mariez-le. Donc la fille, elle a la religion, elle craint Allah, et le mari craint Allah. Allah, Allah. Craint Allah, avec craint Allah, imagine les enfants qui vont venir. Je vais vous raconter une histoire avant de rentrer dans la sagesse du mariage. Il y avait un homme, il s'appelait Moubarak. Hein? C'était le deuxième siècle ou le troisième, après le troisième siècle, la mort du prophète. Il y avait un homme qui s'appelait Moubarak. Et il allait toujours à la mosquée étudier la science. Mais comme vous savez, les gens d'avant, à l'époque, ils étaient pauvres. Ils avaient faim. Ici, s'il mange à midi, le soir, il n'a pas à manger. S'il mange le soir, à midi, il n'a pas à manger. Il vivait dans une société un peu pauvre. Ce Moubarak-là, un jour, il marchait, parce qu'il allait à la mosquée pour apprendre la science. D'un coup, il passe, il trouve par terre une pomme. Cette pomme-là, elle est tombée de l'arbre qui est devant lui. Et cet arbre-là, il appartient à son propriétaire. Cet arbre-là, il est dans la villa. Mais lui, mesquin, Moubarak, il avait trop faim. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé la pomme, il a croqué, il a mangé. Bismillah, il a mangé. Mais ça, c'est des gens, les ulama. Ça, c'est des savants. Ça, c'est des gens qui craignent Allah. Ça, c'est un gens, tous les jours, il essaie de voir, est-ce qu'Allah, il est content de moi ou non? C'est pas comme nous, je m'en fous. Et toi, tu t'envoies, ben Allah, encore, il te tourne le dos. Hein? Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il lui dit dans le hadith, tu te détournes de Allah, Allah, il se détourne de toi. Lui, non. Quand il a mangé la pomme, ouais. Il a dit, ouais, mais attends, j'ai mangé la pomme, moi, mais elle vient de tomber de cet arbre. Là, Allah, il tombe, il appartient bien à quelqu'un. Je viens de commettre une erreur. C'est vrai, moi, j'étudie la science, j'étudie le Coran. J'ai suivi les hadiths et c'est haram ce que je viens de faire. Je vais aller m'excuser. Moubarak, ça sort du mot baraka. Moubarak, ça sort du mot baraka. Il va voir le propriétaire, il tape. Il sort un homme, un vieux, éloquent, bien habillé. Propriétaire, bourgeois. Il lui dit oui. Il lui dit oui, salam alaikum, je m'appelle Moubarak. Alaikum salam wa rahmatullah. Oui, alors? Il a dit, voilà, je marchais tout à l'heure, j'allais vers la mosquée, j'ai trouvé une pomme, je l'ai ramassée, je l'ai mangée, mais j'ai réalisé qu'elle est tombée de ton arbre. Je suis venu te demander, excuse-moi, j'ai commis une erreur. Si tu me pardonnes, j'ai mangé cette pomme. Je dis, jamais de la vie, je te pardonne. Tu manges une pomme sans mon autorisation et tu sais qu'elle est à moi? Jamais de la vie, je te pardonne. Je dis, Ristafirullah, pardonne-moi, Allah. Tu sais que si je mange une bouchée de haram, 40 jours, mon doua n'est pas accepté. 40 jours. Pardon, excuse-moi, je te promets que je ne recommence plus. Je dis, non. Il a dit, bon, écoute. C'est ça, serait nous. Le mec dit, je pardonne pas. Va te faire revoir en toi. Wallah, demain, je te coupe l'arbre. C'est pas une pomme. Demain, l'arbre, je te coupe. Nous, on réagit comme ça. Nous, on réagit comme ça. Il y a des gens qui craignent d'Allah, regarde. Il me dit, bon, écoute, combien, si tu veux, je travaille pour toi. Vas-y, je travaille pour toi une semaine, deux semaines. Oh, c'est une pomme, moi. Oh, mon frère, mon baraque, c'est une pomme. Mais oui, la crainte d'Allah. Combien tu veux que je travaille pour toi une semaine, deux semaines, un mois? Juste pardonne-moi. Il me dit, non. l'adhan, il fait l'adhan. Allah! Ouais, mais j'ai le propriétaire du coton. On va aller prier à la mosquée, après on parlera. Ils partent les deux, ils vont prier la prière, ils sortent de la mosquée. Le propriétaire, il dit à Moubala, viens chez moi. Il le fait rentrer chez lui. Il lui dit, écoute, tout à l'heure, tu m'as dit que tu es prêt à te racheter. Oui, je suis prêt à me racheter. Tu es prêt à travailler pour moi autant de jours, autant de semaines pour te faire pardonner. Il lui a dit oui. Il lui a dit, alors moi, pour celui que je te pardonne, et cette histoire, elle est vraie. Hein. Si tu veux que je te pardonne, j'ai un vœu à te demander. Si tu me le réalises, je te pardonne. Mais mon frère, j'ai pas le choix. Tu me mets dans une impasse. Oui, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il lui a dit, moi, j'ai une fille. Sa mère, elle est morte. J'ai une fille. Et elle est grande. Et je dois la marier. Je veux que tu te maries avec ma fille. Et, machallah, d'une pomme, je tombe sur une femme. Hein? Oh, c'est ça. Vous dites quoi? Vous dites, on a tapé le jackpot. Vous, non? J'ai tapé le jackpot. D'une pomme, je suis avec une femme. Machallah. Ouais, mais attends la suite. Le père de la fille me dit, oui, j'ai une fille, je voudrais que tu l'épouses. Mais elle a un souci. Elle est balafrée. C'est ça? C'est quoi le souci? Il lui dit, elle n'entend pas les sourdes. Et elle est aveugle, elle est muette, et elle est handicapée. Elle ne marche pas. Frère, je me mets une balle dans la tête, c'est une femme ça. Elle est muette, elle est sourde, aveugle, et en plus elle ne marche pas. Tout ça pour une pomme. Frère, ne me pardonne pas, Inch'Allah, tu craves toi-même, tu dis Hanam. J'ai demandé pardon, tu veux pas, mais écoute-moi devant Allah, Allah, aidez-moi, j'ai dit pardon, tu veux pas, je m'en fous, moi. Et ça, je dis, ça, c'est toi qui réagis comme ça, les gens d'avant, non. J'essaie toujours de se faire pardonner. C'est le prophète qui dit que chacun de vous, avant de mourir, qui se rachète. Parce que Yom al-Qiyamah, il n'y a pas de hadra. Yom al-Qiyamah, on prend de tes hasanat, et si tu n'en as pas, on prend de ses péchés, on te met dans ton compte. Et attention. Qu'est-ce qu'il fait, le skin? Il lui dit, est-ce que tu peux me laisser une nuit? Je vais faire la prière de Stéphane. La prière que vous appelez en français, la prière de la consultation. Il rentre chez lui, il va voir sa mère. Maman, j'ai un grand souci, un grave souci. Tiens, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, maman, je marchais dans la rue, j'ai trouvé une pomme. Je l'ai mangée et ensuite j'ai réalisé que j'ai commis une erreur. Je suis parti voir le propriétaire, je lui ai dit, pardonne-moi. Il m'a dit, moi, si tu veux que je te pardonne, je te marie avec ma fille. Mais ma fille, elle est voilà, sourde, elle est muette, elle est aveugle et elle est handicapée, elle ne marche pas. Maman, qu'est-ce que j'ai dit, mon fils, ta mère, elle aurait dit quoi? Qu'est-ce qu'elle aurait dit ta mère? Elle dit, laisse-moi la voir, moi. Ça, voilà, laisse-moi, je vais aller le voir. Et elle dit, c'est une mère qui a éduqué son enfant dans la pitié. Elle dit, mon fils, Allah, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Marie-toi avec elle. Maman, elle est handicapée, je ne marie que avec elle. Si, c'est pas une femme, je veux marier avec elle, je vais faire le voir avec elle. C'est moi qui vais m'occuper d'elle. Et elle dit, mon fils, tu n'as pas le droit. Au moins, tu rencontres Allah saint. Au moins tu rencontres Allah, ça c'est ton épreuve dans ce moment, tu t'occupes de cette femme, mais au moins tu rencontreras Allah Ta'ala au paradis. Accepte mon fils. Le fils oublia sa mère. Sa mère c'est ses yeux. C'est pas comme nous, notre mère c'est notre dos. Mon fou d'aliment. Les gens d'avant, leur mère c'est leurs yeux, leur père c'est leurs yeux. D'accord, maman. Demain je vais aller le voir, je lui dis ça va, je l'épouse. Demain il se lève, mon barak, il va voir le propriétaire. Lui, ça va, j'accepte. Ma mère, j'ai fait ma choix avec ma mère. Ma mère m'a dit, Bismillah, tu qu'elle a Allah. Alors, j'accepte de marier ta fille. Ah ben, il me dit, Alhamdulillah. Ah ben, viens, on fait le mariage. Allez, moi, Mohamed, maintenant, je te donne ma fille. Ça y est, on est mariés, etc. Allez, maintenant, tu peux aller rencontrer ta femme. Il rentre à la maison. Il voit une femme, c'est un rayon de soleil. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois le trafic. Ah. Il rentre dans la maison, il voit une femme, c'est un rayon de soleil. Restez avec moi, restez, restez, il est parti, restez avec moi. D'accord? Il rentre à la maison, il voit la femme, elle est jolie. Comme vous dites, vous en français, c'est un boulet de canon. Hein? C'est une beauté. Il lui dit salam alaykoum. Elle lui dit wa alaykoum salam. Tu parles toi? Elle lui dit oui, je parle. Il lui dit tu me vois? Elle me dit oui, je te vois. Mais tu m'entends là quand je te parle pas? Elle me dit oui, je t'entends. Bête. Elle se lève, la fille, elle lui dit pardon. Il a beau marcher. Tu marches en plus? Elle me dit oui, je marche. Mais pourquoi ces questions? Elle me dit parce que j'ai demandé la main de. Parce que j'ai eu affaire à ton père hier et il m'a dit j'ai ma fille, elle est aveugle. Elle est sourde. Elle est muette. Et elle ne marche pas. je te vois, tu regardes, tu vois, tu entends, tu parles et tu marches. Elle me dit, oui, assieds-toi, je vais t'expliquer. C'est assis. Elle me dit, mon père et ma mère, Allah yarhamha, ils m'ont éduqué dans la piété. Quand je parle, je ne parle que pour dire quelque chose qui va me ramener profit, sinon je me tais, je suis muette. Ya hayu son enfant mal. Quand j'écoute, j'écoute que les trucs qui satisfait Allah. Sinon, je n'écoute pas, je suis sourd. Et quand je regarde que les choses qu'Allah désire, qu'il souhaite et qu'il s'ahlème. Le haram, je ne regarde pas. Et sortir, je ne sors pas dans des endroits que je sors de la maison que en cas de nécessité absolue. Sinon, je suis à la maison, enfermé dans la maison. La ilaha illallah. Il s'est marié avec elle. Mubarak, qui craint Allah, avec cette fille qui craint Allah. Allah, il aura donné un enfant. Cet enfant-là, ayant l'Ikhwatul Kiram, il l'a appelé Abdullah. Et c'est le Alim, le grand savant que vous connaissez tous, et pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Abdullah ibn al-Mubarak, l'un des professeurs de l'imam al-Bukhari. L'un des professeurs de l'imam al-Bukhari, que ce Abdullah ibn al-Mubarak, ayant l'Ikhwatul Kiram, c'était, allez-y dans sa biographie, les savants, ils ne peuvent que l'éloger des éloges de montagne. Tout ça, c'est venu grâce à la piété des parents. Donc quand tu veux te marier, mon frère, et tu veux marcher dans cette religion, la femme, elle t'aide. Et toi, tu l'aides. Et c'est ensemble que vous avancez ensemble. C'est pour ça que l'islam, il t'interdit de rester célibataire. Il t'interdit de rester célibataire. Vous savez, dans le mariage, il y a beaucoup de sagesse. Il y a 5 sagesses dans le mariage, mais le temps ne suffit pas, je vous le dirai une autre fois. Je vais vous dire juste la 5e. L'une des sagesses du mariage, min al-hikam, min tab'ir, min al-hikam, parmi les sagesses du mariage, Allah il te donne une deuxième chance. Moi? Oui. Mais comment Allah il me donne une deuxième chance? Parce que toi, tu es rentré dans la religion tard. Tu as quel âge? 40 ans. Je sais que tu aimes le Coran. Et je sais que tu aurais souhaité apprendre le Coran par cœur. Mais tu sais que toi, au fond de toi, tu as 40 ans, ça y est, c'est fini. Toi, tu aurais bien voulu apprendre le Bukhari. Mais ça y est, j'ai 26 ans. Et je sais que c'est trop tard, je travaille, j'ai pas le temps, je suis marié, je peux pas apprendre le Bukhari. Oui, tu souhaitais apprendre le Bukhari, tu peux pas. Tu souhaitais devenir savant, tu peux pas. Tu souhaitais devenir un bourgeois et donner ton argent pour 5000 euros, tu peux pas. Eh bien justement, ce que tu peux pas faire, tu peux le faire à ton enfant. C'est pour ça que quand tu te maries, tout ce que vous faites faire à vos enfants, c'est mis dans son compte à lui et dans ton compte à toi. C'est pour ça que le prophète dit dans le hadith sahih, quand l'un de vous il meurt, son compteur de hasanat il arrête de fonctionner. Stop. Sauf s'il a laissé 3 choses. Parmi les 3, s'il a laissé un enfant pieux. Moi je suis mort, mais j'ai laissé mes enfants derrière moi. Moi je suis mort. Yawm al-Qiyamah, je me mets debout devant Allah. Allah Ta'ala me dit, mon serviteur Nuruddin, tu as dans ton compte, tu as fait 93 hajj. Moi j'ai fait 93 hajj. J'ai pas fait de hajj, moi, non, j'en ai fait qu'un dans ma vie. Dans ton compte, c'est marqué 93 hajj. Parce que toi, tu as fait faire le hajj à tes enfants et à tes filles. Et les enfants de tes enfants, ils l'ont fait. Et les enfants de tes filles, l'ont fait, etc. Et tout ça s'est mis dans ton compte parce que c'est toi la cause. Allah dit dans Sourate Yassin, وَنَكْتُبُوا مَا قَدَّمُوا. On prescrit tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont laissé derrière eux. Ils ont fait les enfants. وَنَكْتُبُوا مَا قَدَّمُوا وَآخَرَهُمْ. Tout ce qu'ils ont fait, tes enfants, c'est sur ton compte. C'est pour ça qu'il est venu dans le hadith sahih, l'un de vous se va retrouver nez à nez devant les montagnes de hasanat, va dire, ya Allah, anna li hada, c'est pas de moi. Allah Ta'ala va dire, ça c'est les du'as qui faisaient ton enfant derrière toi. Ça c'est les du'as qui faisaient ton enfant, ton. T'imagines, il y en a plusieurs. Si tu as des petits enfants, c'est ton enfant ce qu'il faisait derrière toi. Donc Allah Ta'ala, il te donne une chance. Ce que tu n'as pas pu faire toi, tu n'as pas pu apprendre le Coran. Apprends le Coran à ton enfant. Si ton enfant il apprend le Coran, on te met dans ton compte à toi que tu es quelqu'un qui a appris le Coran. Pourtant, je ne l'ai pas appris, je ne connais que pour le Wallah. Mais auprès d'Allah, on marque comme si tu as appris le Coran par cœur grâce à ton fils. Puisque ton fils a appris le Coran grâce à toi, eh ben, on te marque à toi aussi comme toi tu as appris le Coran. Donc, ayyuhul ikhwatul kiram, c'est pour ça que c'est très très important le mariage. Dans l'islam, rester célibataire, c'est pas bon. Donc, je veux me marier, l'islam, il n'est pas rentré dans ce que tu veux. L'islam, il n'est pas rentré dans choisis. Fais ce que tu veux. Marie-toi, choisis la fille que tu veux. Juste essaie de choisir une fille qui craint Allah. Et cette fille-là, elle choisit un garçon qui craint Allah. Il y a le respect des deux côtés. Et là, vous allez pouvoir avancer. Il va y avoir des disputes, des querelles. C'est normal, comme il a fait le prophète. Mais il y aura toujours ce frein à main de ton côté à toi et ce frein à main de son côté à elle. C'est la crainte d'Allah Ta'ala qui vous empêchera. Donc pour que le mariage soit valide, parce qu'on va rentrer dans le mariage, il faut 5 conditions. Et vous n'avez pas besoin de l'imam. Il faut que vous les appreniez par cœur, ces 5 conditions. S'ils sont réunis, le mariage il est apte. S'il en manque un des 5, le mariage il est erroné. C'est pas bon. 1. Il faut que la fille, il y a son père qui la représente. Ou un membre de sa famille qui la représente. C'est ce que vous appelez en français, vous, tuteur. C'est ce qu'on appelle en arabe, un wali. La fille, elle n'a pas le droit de se marier tout seul. Eh ben oui, je connais un garçon, je l'ai connu. Ouais, ben tu as connu un garçon, oui, mais il doit passer par le père ou le frère ou ça. Tu n'as pas le droit de te marier tout seul. Allah dit dans le Coran, فَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِ. Mariez-les avec l'autorisation de leur tuteur. Première condition, il faut que la fille ait un tuteur. Deuxième condition, c'est quoi? Il faut la dot. Al-Maharu, la dot. C'est quoi la dot? Eh bien la dot, c'est le père de la fille, il va s'arranger avec le garçon qui va se marier avec la fille. Il va lui dire, voilà, tu sais que je vais marier ma fille, et parce qu'il n'en a pas, donc j'ai besoin que tu contribues. Alors il va lui dire 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros, et ça arrange entre eux, t'as pas l'impression. D'accord? Et le garçon, il va venir contribuer à donner un petit quelque chose. Ce petit quelque chose-là qu'on va remettre à la fille, parce que la fille, elle a besoin de se faire coudre des robes, elle a besoin d'acheter ses bijoux, elle a besoin de chercher des parfums, des maquillages, elle a envie de se faire belle, c'est le mariage normal, le mari contribue. Ouais, mais la dot, c'est quoi? L'islam, il n'est pas rentré dans la dot. Parce qu'il y a des pays, ils parlent en argent, comme nous en France, ça parle argent. Il y a des pays, ça parle en mouton. Il y a des pays, ça parle en tissu. Il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, ils parlent en or. Une parure d'or, une parure d'or, deux parures d'or. Il y a des pays, ça parle en or. Donc chaque pays, il a sa tradition. Donc l'islam, il n'est pas rentré dans ça. L'islam, il te dit, le muhim, tu donnes quelque chose à la vie. Et nous, en France, comme vous savez, là, 98%, c'est l'argent. Hein, il s'arrange le père avec le garçon, donne une somme, cette somme-là on va la donner à la fille, elle va s'acheter, elle va se faire coudre, etc. Mais il faut donner. Ça c'est la deuxième condition du mariage. La troisième condition du mariage, il faut 2 témoins musulmans. 2. Pourquoi? Parce que des fois on a affaire à des mariages, à des conditions. Le garçon il dit à la fille par exemple, je veux que tu portes le foulard. Par exemple, moi je veux que tu portes le foulard. La fille elle dit par exemple, moi je suis en terminale, moi je veux que tu me laisses finir les études. Par exemple, il accepte. Au début c'est beau, c'est rose, ils sont amoureux, il accepte. Mais dès qu'il se marie, il change d'avis. Il dit non, moi j'ai plus envie que tu suives les études. Ou bien non, je vais avoir un enfant tout de suite. Elle me dit non, attends, moi tu m'as dit de laisser finir les études. Attends, mais tu m'as jamais dit que je voulais avoir un enfant. Et les disputes et les querelles, ils commencent entre eux. Comment on va savoir nous qui c'est qui a raison? Je vous appelais vous les 30-40 que vous étiez dans la mosquée ce jour-là? Non. On va appeler 2 témoins là. 2 témoins là. Abdullah, Mohamed, bien. Oui. Tu te rappelles le mariage de XY? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit, blanc ou rose? Ah non, il a dit blanc. Et toi, Mohamed, qu'est-ce qu'il a dit, blanc ou rose? Ah non, il a dit blanc. C'est à travers ces 2 témoins là qu'on va savoir si le garçon qui a raison ou si la fille qui a raison. C'est pour ça que l'islam te dit La nikaha illa bi wali. Wajahidei ad, 2 témoins. Donc la troisième condition du mariage, pour que le mariage soit valide, il faut 2 témoins. Et la quatrième condition du mariage, c'est quoi? Il faut te marier avec une femme croyante. Tu la veux chrétienne, mais allez, tant qu'elle croit en Allah, tu peux. C'est à toi de faire des efforts sur elle, jusqu'à qu'elle croit en Muhammad Rasulullah, et elle devient musulmane. Tu veux te marier avec une femme juive? Tu peux. L'islam, il t'a permis. Tant qu'elle est croyante, hein, tu peux. Te marier avec une femme bouddhiste? Non. Te marier avec une femme athée qui ne croit pas du tout en Dieu? Non. Te marier avec une femme qui adore que les idoles ou qui adore les étoiles? Non. Je veux marier avec une femme qui adore le feu? Non. L'islam, il te dit, il faut qu'elle soit croyante. Chrétienne, juive ou musulmane? Jean du livre ou musulmane? Il faut qu'elle soit croyante. Ça, c'est la quatrième condition du mariage. Autrement, tu n'as pas le droit. Et la cinquième condition du mariage, il faut l'acceptation des deux côtés. Dans l'islam, il n'y a pas de forcing. Ni on force le garçon à se marier, surtout on ne force pas la fille. Il y a certains pays, comme vous avez entendu, vous avez vu, ils forcent la fille à se marier. Non, si la fille elle va se manifester, elle va se rouspéter, ben le mariage est annulé, automatiquement. Pourquoi? Parce que l'islam, il a donné le choix à la fille. Elle veut se marier, elle veut, elle veut pas, elle veut pas. On n'a pas le droit de forcer la fille, tant qu'elle dit rien. C'est preuve qu'elle a accepté, mais si elle se manifeste et elle va annuler le mariage, elle annule. Donc ça, c'est les cinq conditions du mariage. S'ils sont réunis, le mariage, il est valide. Il manque un petit sujet et on rentre dans le mariage. On entend parler beaucoup de chez les gens au Maroc, en Tunisie, en Algérie, ils appellent le mariage, ils l'appellent Fetha. Oui ou non? Ils l'appellent Fetha. Viens, on va faire le Fetha. Pourquoi vous l'avez appelé Fetha? Dans l'islam, ça s'appelle Aqdun Nikah, le pacte du mariage. Ça sort d'où ce mot Fetha? Le mot Fetha, ça sort du mot l'ouverture. Ftah, ouvre, ouvre. Ouvre en arabe, Ftah. Mais j'ouvre quoi? La relation entre la fille et le garçon sont haram. Il n'a pas le droit de dormir avec elle. Il n'a pas le droit d'habiter avec elle. Pour l'instant, elle est interdite pour lui, elle est interdite pour elle. Oui ou non? Donc là, nous, on va faire Aqdun Nikah avec ce pacte du mariage. On va venir ouvrir, Naftah. On va ouvrir la relation entre les deux. Mais les gens, quelques gens, ils ont mal compris. Ils ont compris le fait, ha? Ça veut dire lis-nous sur la Al-Fatiha. Alhamdulillah, ya Rabbil Alameen, wa l'Allah. Al-Fatiha n'a rien à faire ici. Al-Fatiha se lit dans la prière. Fatiha ici, non. Ici, c'est dua. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a baynakuma fi khair. Qu'Allah vous fait vivre avec bonheur et gaieté. Qu'Allah vous donne une très belle descendance. Qu'Allah vous donne une bonne descendance. Qu'Allah t'a fait que vous vivez avec amour et dua, oui. Mais lire sur la Al-Fatiha, qu'est-ce qu'elle a pour sur la Al-Fatiha ici? Elle n'a rien à voir. Les gens, ils ont compris le mot ouvre, ça veut dire lire le sur la couverture. Non, sur la couverture, je la lis dans la prière. Ici, le Fatiha, ça sort du mot ouvre. Ouvre la relation entre le garçon et la fille. Je vous dis ça, comme ça, vous savez que quand vous allez assister à des mariages où on ne lit pas sur la Al-Fatiha, il y a des gens, ils se regardent entre eux, mais pourquoi il n'a pas les Fatiha? Le mariage, il a annulé. Hein. Allahu a'lam, tu crois que le mariage n'est pas bon. Il a oublié l'imam de dire Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa l'Azalim. Il a oublié. Le mariage n'est pas bon. Non, ça n'a rien à voir le mariage ici. Lire sur la Al-Fatiha, ça n'a rien à voir. Le mot Al-Fatiha, ça sort du mot ouvrir. Vous avez mémorisé? Vous avez appris? Bon, maintenant on va rentrer dans le mariage. Viens mon frère. Vous pouvez dire que je prends ce qu'après il va se sauver. Comment tu t'appelles? Djinali. Djinali, fils de. Le nom de ton papa. Ali, Djilali, fils de Ali. Jamal, le tuteur de Manias, il est là, c'est son oncle. Premier témoin, c'est mon neveu, il est là. Et le deuxième, Rachid, fils de Mohamed. Rachid, fils de Mohamed, Mashallah. Ça, c'est le frère Djilali qui va se marier, Mashallah. Il a bien ouvert pour le paradis, Inch'Allah. Djilali, je vais te poser une question, Inch'Allah, avant que je fasse le mariage. Tu as vu dans le levier de vitesse? Des fois, quand les gens vont passer le permis de quoi, tu vois, dans le levier de vitesse, je ne sais pas moi, des fois, ils mettent des chiffres sur le levier. Il y a 1, 2, bon, ça c'est facile, 3, 4, après il y a un moyen, il y a un R. C'est quoi le R? Hein? Avec recul.
Marche à venir.
T'inquiète pas, je vais y aller. Vous êtes témoin, il a dit, recule pas. À la fin, on lui fait le dorage, on dit, bienvenue dans le clan des pendus. D'accord? Donc, Inch'Allah, on va procéder au mariage, Inch'Allah. Je vais lire quelques versets, quelques hadiths. Après, je vais demander à mon frère, qui est grand, s'appelle Jamal, ici, qui est en face de vous, Inch'Allah, c'est le tuteur de ma nièce, qui est tuteur pour elle, Inch'Allah. Donc, je vais demander, est-ce que de son plein gré, il veut marier, donner sa nièce au frère Djilali? On va voir ce qu'il va dire. Peut-être qu'il a changé d'avis, je ne sais pas. Et ensuite, je vais poser la question au frère Djilali, fils de Ali, est-ce que tu veux épouser ma nièce? Entre-temps, peut-être qu'il a changé d'avis, ou je ne sais pas, parce que j'ai dit pas mieux ou pas mieux, on va voir. Et après, je vais poser la question au premier témoin, et après la question au deuxième témoin, c'est ça? Ali, tu m'as dit?
Rachid,
fils de Mohamed, c'est quoi Ali? Ouais, Rachid, fils de Mohamed, d'accord? Et la dot, ils se sont mis d'accord pour la dot, et il y a une condition du mariage que tu sais, moi je ne la cite pas, tu feras savoir le tuteur sur la condition, s'il y a une condition du mariage, et tu feras savoir les deux témoins, d'accord? Ça reste secret entre nous. Et la dot, ça reste un secret. Tu veux que je la dise ou ça reste en trop? Ça reste en trop. Bismillah, c'est bon? On rentre? On rentre dans le mariage? Après, on fait la prière, Inch'Allah. Inna alhamdulillahi l'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. أخي في الله، مفخر جمال، فيس دو كويلر، الله يرحمه رحمة واسعة، أكسبتو دو ماري، دو دوني كوم إبوز، تانياس، كي سنوم أمل بنت عبد الله المسيح. Mon frère ici présent qui se nomme Jilali, fils de Ali, acceptes-tu?
Oui.
Accepte. Vous avez entendu au fond?
Oui.
Hein? Non,
non,
non. Vous avez entendu?
Oui, j'accepte.
Ah, ben, voilà, celui-là il est un peu plus fort que celui-là. Oui, oui, j'accepte. Après, tu vais te demander de voir un peu. Ça serait moi le tuteur pour voir ce que je lui demande. Il dit oui, je crie, mais après, d'un côté de moi, c'est le savon. Il a dit oui, vous avez entendu, hein, surtout les deux témoins. Jilali, fils de Ali. Jilali, fils de Ali, acceptes-tu d'épouser, de te marier, de prendre comme épouse cette chère femme qui se nomme Amel, fille de Abdillah, dont son tuteur est ici présent, et se nomme Jamal, fils de Quidam. Acceptes-tu de l'épouser de ton plein gré?
Oui.
Mieux que le tien, ma parole.
Mashallah, c'est aujourd'hui tu vas demander un bon repas.
Vous avez entendu? Le tuteur, vous avez entendu, il a dit oui. Jilali, il a dit oui.
J'ai entendu.
Le mariage, il est fait à moitié. Parce que si un des deux témoins il fait une crise, il sort de la mosquée, le mariage tombe à l'eau. Donc il faut bien que les deux témoins. On va commencer par Rachid, fils de Mohammed. Rachid, fils de Mohammed, est-ce que tu as bien entendu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu témoignes devant Allah subhanahu wa ta'ala que le frère ici présent, se nommant Jamal, fils de Quidam, a bien accepté de marier, de donner comme épouse de son plein gré au frère ici présent, à mes côtés, qui se nomme Jilali, fils de Ali? Tu témoignes?
Oui, je témoigne.
Oh, mashallah, Allah ibarak, mashallah. Je t'en pose la question une deuxième fois. Rachid, fils de Mohammed, est-ce que tu as bien entendu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu témoignes devant Allah subhanahu wa ta'ala que ton frère ici présent, se nommant Jilali, fils de Ali, a bien accepté de se marier, de prendre comme épouse, ma nièce, ma chère nièce qui se nomme Amel, et il a demandé sa main au frère ici présent, Jamal, fils de Quidam, de son plein gré? Tu témoignes?
Oui, je témoigne.
C'est presque fini, même plus là. Lui, c'est la dernière frontière, après ça, il marie. Moussa, fils de Jamal, est-ce que tu as bien entendu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu témoignes devant Allah subhanahu wa ta'ala que ton père ici présent, se nommant Jamal, en tant que tuteur, a bien accepté de son plein gré de marier, de donner comme épouse ta cousine, se nommant Amel, et de la marier au frère ici présent qui se nomme Jilali, fils de Ali? Tu témoignes?
Oui, je témoigne.
Je te pose une question une dernière fois, puis je te laisse. Allez. Moussa, fils de Jamal, est-ce que tu as bien entendu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu témoignes devant Allah subhanahu wa ta'ala que ton frère ici présent, en face de toi, selon mon Jilali, fils de Ali, a bien accepté de se marier de son plein gré, et elle a demandé la main à ma nièce qui se nomme Amel, il a demandé la main à ton père ici présent qui se nomme Jamal, et il a décidé de se marier de son plein gré. Tu témoignes? بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ومن الله سبحانه عز وجل qui te fait vivre avec elle avec bonheur et quitté et qu'Allah سبحانه عز وجل fait l'amour et le respect entre vous deux et qu'Allah ta'ala le jour où vous descendez d'avoir une descendance qu'Allah vous donne une très belle descendance qui vous donne une très bonne descendance qu'elle sera sous l'obéissance d'Allah et l'obéissance des parents inshallah. Après inshallah la prière ils sont mariés inshallah. Mabrouk alaykoum inshallah, félicitations. chacun de vous doit féliciter, c'est la sunna, de féliciter le tuteur et surtout de féliciter le mari, Inch'Allah. Et comme ça, on procède à la prière. Félicitez-le, Inch'Allah, et après, on procède à la prière, Inch'Allah.
Allah.